à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière émission Biblio Plus Plus, l'émission des médiathèques d'Evreux, la dernière de l'année civile. Elle reprendra ses droits bien évidemment en septembre, et ce sera un format un peu particulier aujourd'hui puisque ce vendredi tombe le 21 juin, jour de la fête de la musique. Donc on aura un haut programme aujourd'hui, bien sûr la présentation des manifestations de l'été, mais surtout trois groupes ou artistes issus de la scène hébreuicienne qui viendront répondre à nos questions, et puis aussi jouer quelques titres en live et en acoustique. En l'occurrence, il y aura David Chappelle alias Sorry Jim. Il y aura aussi les nouveaux venus sur la scène hébreuicienne, le groupe Bardo, et on terminera avec le groupe Bukaro Banzai qui ne jouera pas par contre, mais on entendra un de leurs titres en enregistré. En ce qui concerne les manifestations, moi je vais vous parler fête de la musique oblige, des concerts piano-voix qui ont déjà eu lieu à la médiathèque de Navarre et à celle de la Madeleine. Le principe est simple, Benoît Marguerite, professeur de chant et de musique à la MJC, viendra accompagner d'une de ses élèves de chant. Ils interpréteront des titres du répertoire pop, rock, chanson choisis par l'élève. Le temps d'un concert de 45 minutes, l'entrée est bien évidemment libre et gratuite. Et ils seront le mercredi 26 juin à 16h à la bibliothèque de Netreville et à la médiathèque Roland Plaisance, donc ici même le 3 juillet. Là par contre ce sera à 12h30. Je laisse la parole à Nadège pour présenter le reste des manifestations culturelles à venir.
Oui, merci, merci Laurent. Dans la suite des manifestations de l'été, on commencera le 29 juin avec la Biennale d'art contemporain, donc pour la partie médiathèque. Alors, c'est une partie, enfin je dis la partie médiathèque, mais il y a quand même un parcours à travers la ville le 29 juin. Il y a un rendez-vous qui va démarrer au musée, puisque c'est une biennale qui est mise en place avec évidemment le musée, la Maison des Arts et aussi la participation des médiathèques et notamment notre artothèque. Donc il y aura un parcours dans la ville de 14h à 16h pour voir un peu aussi toutes les sculptures contemporaines qui auront été installées réalisées par les artistes dans la ville, en parallèle de l'exposition bien sûr qui aura lieu au musée et aussi à la Maison des Arts. Et vous terminerez ce parcours à la médiathèque à 16h avec la restitution de l'œuvre de Simon Ripoll-Hurier, un des artistes invités qui a travaillé aussi un parcours avec les habitants de Netreville, donc l'expo descend de Netreville à Roland-Plaisance. Vous pourrez donc voir ici la restitution à 16h. 16h30, une table ronde avec l'ensemble des artistes qui participent à cette Biennale d'art contemporain animée par notre artothécaire Karine, qui a aussi mis en place une exposition ici qui s'appelle Des paysages en regard avec celle du musée. Et à 18h15, c'est là que je ne veux pas me tromper sur l'horaire, nous diffuserons Stalker, le film de Tarkovsky, qui est vraiment un super film qui viendra clore cette soirée.
On poursuit donc, Nadège, la troisième partie de ces points forts dans cette émission où les rubriques sont un petit peu chamboulées pour la fête de la musique, avec les cinémas en plein air et trois dates à retenir, notamment les vendredis 12 juillet, vendredi 19 juillet et mercredi 28 août. Le premier de cette diffusion cinéma aura lieu à Saint-Michel à 21h30 à l'Agora. En co-organisation, donc co-organisateur l'Agora, pour une programmation, une diffusion du dessin animé Zombilennium. Donc ça, ce sera 21h30, mais dès 19h30, il y aura un repas partagé multiculturel d'organiser. La deuxième date, donc le vendredi 19 juillet, aura lieu à Netreville, c'est plutôt au Clos-au-Duc, à la place du 8 mai City Stade, pour la diffusion donc de Yakari la Grande Aventure, co-organisé cette fois par l'AL2E. Et puis un repas du monde pour introduire cette soirée sera organisé dès 19h30 pour un repas partagé. Et on clôture donc cette programmation de cinéma en plein air avec le troisième rendez-vous le 28 août à Navarre, dans le quartier de Navarre, à 21h30 dans la cour de l'école de Navarre, pour la diffusion du film À la Belle Étoile, co-organisé par les maisons de Navarre. Donc dans l'après-midi débutera d'ailleurs des animations entre 15h et 18h pour les enfants, ainsi qu'un pique-nique géant. Mais Nadège, je te repasse la parole, puisque je crois que tu avais oublié informations.
Déjà, avant d'annoncer la suite de ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai oublié une chose importante concernant le parcours d'art contemporain et la Biennale d'art contemporain. Nous recevrons aussi le jeudi 4 juillet à la médiathèque une conférence performative avec Jérôme Barbe, qui qui s'intitule « Que reste-t-il de nos regards, écrans et paysages ?» C'est un format de conférence un petit peu différent. Il y aura une performance artistique en même temps. Et il évoquera notre rapport au paysage, au dessin, à l'expérience collective des paysages. Et nous invitera à découvrir un point de vue inédit sur les jardins autour de la médiathèque à travers les surfaces vitrées. Donc ça me semblait... Et ça, c'est le 4 juillet à 18h30. Donc c'est pour ça que je suis revenue un petit peu en arrière dans la chronologie, alors que j'aurais dû enchaîner après toi sur le 80e anniversaire de la libération d'Évreux.
Alors c'est maintenant ou jamais du coup.
Voilà, fin août, où nous accueillerons une exposition Évreux-Rüsselsheim, Libération, Reconstruction et Constellation, un projet avec nos collègues des Archives et du Patrimoine, la Bibliothèque Patrimoniale, une belle expo.
Ça, c'est dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération.
Donc ça lancera les événements à partir du vendredi 23 août pour l'inauguration et vous pourrez voir l'exposition tous les jours.
Et on poursuit donc sur la thématique de cette journée, de cette grande journée de la fête de la musique, avec un petit historique. C'est quoi la fête de la musique pour celles et ceux qui n'auraient pas, qui découvriraient ou qui ne connaîtraient pas l'historique de cet événement? Il faut savoir quand même que la fête de la musique, ça a été créée en 1982 par le ministère de la Culture et son ministre de l'époque, Jacques Lang, afin de célébrer la pratique musicale sur tout le territoire national. Et c'est ainsi que les communes rurales, les petites, moyennes et grandes villes de France s'investiront donc afin de faire de la date du 21 juin, jour de solstice de l'été, une journée, un moment privilégié pour exprimer la vie musicale dans son ensemble et refléter son dynamisme permanent. Alors le principe, il est simple, ce sont des concerts gratuits et accessibles, soutenus par la SACEM, relayés par les médias, accompagnés par les collectivités territoriales. Et la finalité, bien sûr, c'est l'adhésion de la population, faire de cette journée une grande fête populaire. Depuis son développement, cette journée continue de mobiliser donc les réseaux, les grandes fédérations amateurs, les pratiques amateurs, les équipements sociaux et culturels, les associations locales, les scènes de musique actuelle, les écoles de musique, les conservatoires, les institutions musicales, les musées, les hôpitaux, les municipalités, donc les radios, les télévisions, les salles de concert, les entreprises publiques ou privées, organisant leurs propres concerts. Cette fête a eu, au fil des années, dès le début du milieu des années 80, un écho international et pour être aujourd'hui repris dans plus de 120 pays, l'Italie, le Mexique, l'Équateur, la Colombie, j'en passe, pour être célébré dans des grandes métropoles comme New York ou encore Berlin. À plus de 40 ans, ce rendez-vous festif du 21 juin s'inscrit donc dans le paysage culturel français. Il conserve l'esprit d'origine de mettre en lumière et de favoriser les pratiques amateurs de la musique tout en s'adressant à tous les publics de toutes les conditions sociales. Et pour la petite anecdote, vous ne le saviez peut-être pas, mais il faut savoir que c'est un musicien et un luthier américain du nom de Joel Cohen qui travaillait pour Radio France dans les années 70, qui a imaginé en 1976 pour des émissions des soirées de concert pour célébrer les solstices du 21 juin et du 21 décembre. Alors, ces manifestations ont eu lieu dans l'ouest parisien sur la ville de Toulouse. Et c'est cette idée qui sera donc reprise par Jacques Lang. Mais aujourd'hui, la fête de la musique sur Évreux, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve, Laurent?
Alors, on y trouve un certain nombre d'artistes. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a trop. Au Jardin de l'Évêché de 17h à 18h, avec le CRD, le Conservatoire, un rayonnement départemental, il y aura des ateliers de technique vocale. De 18h à 19h, la chorale Sing Song avec les agents de la collectivité. 22h45, toujours au Jardin de l'Évêché, à minuit, Balkan Deluxe, qui est un swing de l'Europe de l'Est. Sur la scène Oursel, Dastrike, un rock brut expérimental. Et puis à 20h45, l'orchestre des agents du centre hospitalier d'Évreux, ce sera pour des concerts de reprise. Sur la scène de Gaulle, à minuit, on retrouvera un collectif de DJ Seb Katana, Midji E et la Boom Team. Sur la scène Clémenceau, Léonie Lionceau, ce sera de 17h30 à 18h, The Droners de 18 à 19, le groupe Grand Ouest de 19h à 20h, et au Levrette Café, alors à partir de 15h, il y aura les DJ Deuz, hein, qui est aussi par ailleurs, qui fait partie de l'équipe de Principe Actif, et Jean-Jean et le DJ Mathieu. À la brasserie Petite Gabelle, à partir de 19h, Supersonic, c'est une reprise de musiques actuelles. Et au Relais de la Poste, à partir de 19h, 88 BPM, c'est le nom d'un groupe pop-rock. Si vous voulez toutes les informations, évidemment, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez « Fête de la musique Évreux 2024 », vous allez avoir le programme complet.
Voilà pour la programmation. pour la programmation donc de cette journée. Et on en revient donc à la programmation de la médiathèque et des groupes qu'on reçoit, Laurent. Donc là, on va démarrer avec...
Avec Sorik Jim. Alors, si vous lisez la rubrique culture et loisirs du journal La Dépêche, son nom peut ou doit vous dire quelque chose. Un bon nombre de musiciens d'ici et d'ailleurs sont passés sous sa plume et sous son œil de photographe averti dans la rubrique culture du journal que je viens de citer. Alors, c'est pas pour ces raisons-là qu'on le reçoit. On reçoit David Chappelle, donc non pas en tant que journaliste et photographe, mais en tant que chanteur au sein d'un projet musical baptisé Sorik Jim, le temps d'une petite interview. Alors, c'est un peu l'arroseur arrosé puisque David a l'habitude d'interviewer, de faire des beaux papiers sur les gens qui font des beaux disques ou de la belle musique dans cette ville, et le temps aussi de deux titres en live et en acoustique dans l'émission des médiathèques. Bonsoir David.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le micro tendu de l'émission Biblio Plus Plus. Alors le projet Sorik Jim est né de quelle envie ou de quel besoin? Est-ce qu'il est né d'un manque, ce projet Sorik Jim?
Il est né de la soirée de Venus in Fuzz. D'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse. Gang of Venus joue devant BD Lib vers 19h ou 19h30. C'est une autre, et une autre parenthèse, on est à la médiathèque dessinée par Chemetov. On a ressorti dans la dépêche de ce matin une interview de Chemetov quand il était venu, enfin en 2015. Une interview à lire qui est très intéressante. Donc ta question... tu vois, c'est difficile de lâcher prise en interview.
Oui, non, mais
donc,
j'ai mes questions, t'as tes réponses, David. Hein.
Habituellement, c'est moi qui dirige, donc c'est pour ça. Je vais essayer de me laisser aller. Sorik Jim est né de la soirée Venus in Fuzz. C'était une soirée consacrée au Club des 27. On reprenait des Doors. Enfin, j'avais demandé à Vadim, qui doit être quelque part par là, si on pouvait participer à cette soirée. Il m'a dit oui, on a repris des Doors et on cherchait un nom. Donc, on a fait un hommage à Jim Morrison.
Et je rappelle que Paul Chemetov donc, a conçu cette médiathèque Roland Plaisance dans laquelle on est en ce moment. Il est décédé il y a quelques jours, oui, à l'âge fort respectable de 94 ans. Alors, est-ce que monter sur scène, alors, surtout quand on chante, c'est une mise en abîme ou c'est un simple jeu auquel tu te prêtes? Puisque tu parlais de cette soirée Venus in Fuzz, qu'on peut prendre comme un jeu, mais en même temps, c'est une mise en danger.
Je faisais ça quand j'avais 15 ans. C'est un peu, tu sais, j'arrive à un âge où c'est la crise peut-être du milieu de vie, où tu as envie de revivre un peu tes émotions de jeunesse. Moi, j'avais un groupe et j'étais déjà chanteur quand j'avais 15 ans. On a joué dans des grands concerts et c'est pas un truc que j'appréciais forcément. Donc là, j'ai eu l'occasion, par le biais des soirées Vénus, de retenter l'expérience de la scène.
Et du coup, il y a une suite, hein, on va en parler. Mm-hmm. Alors, tu m'as confié ne pas aimer les Doors. Alors, ton nom de scène est évidemment un clin d'œil évident au groupe de Jim Morrison. Donc, tu les as même repris le temps de deux chansons pour cette soirée Venus in Fuzz. Est-ce que c'est plus facile de reprendre un artiste qu'on n'aime pas trop?
Qu'on connaît moins, oui. Il n'y avait pas d'enjeu en reprenant les Doors, il n'y avait pas d'enjeu. On a repris les Stones, il n'y avait toujours pas d'enjeu. C'est plus difficile avec des groupes que j'apprécie parce que y a pas plus d'enjeux, mais je sais pas, c'est peut-être plus compliqué de se mettre dans la peau de quelqu'un qui t'a bercé, enfin qui t'a construit. Mais j'ai pas dit que je ne reprendrai jamais Duran. Parce que on n'a pas parlé de mon complice de la journée.
Oui, Yves Garou. On va en parler tout à l'heure. Mais si tu veux rajouter un mot sur Yves,
Il a déjà une reprise dans les mains d'un groupe que j'apprécie particulièrement, mais on n'a pas encore tenté le truc. On a approché la chose, mais on l'a pas encore fait. C'est quelque chose de sacré.
C'est très difficile à reprendre, Duran.
Non, c'est plus simple, mais c'est plus sacré peut-être. Enfin, c'est con de dire ça, Duran sacré. Mais...
Et puis bon, Jim Morrison ne te fera pas le reproche d'avoir repris ta chanson et de ne pas aimer ce que tu en as fait. Alors, qu'est-ce qui te touche? Alors, ça, c'est un angle un peu plus personnel. Qu'est-ce qui te touche dans une chanson?
Mais comme tout le monde, une chanson, ça dépend. Si c'est une vieille chanson, moi, j'écoute souvent des vieilles chansons. C'est comme des enveloppes avec des odeurs du passé. Ça te rappelle un instant, un moment, et il suffit d'écouter la chanson. Et il y a quelques jours, j'ai réécouté une vieille chanson de Thompson Twins, un vieil album de Thompson Twins, qui était un groupe pop, un trio de groupe pop des années 80. Mais dans les années 70, c'était un collectif. Et un de leurs premiers albums, j'ai écouté ça. Mais je me suis projeté 20 ou 25 ans en arrière. Enfin, je revivais. C'est à cette époque-là, donc je pense que les chansons ont cette partie-là, le pouvoir de faire revivre
de voyager dans les couloirs du temps. Et alors l'exercice de la reprise, c'est faire sienne les chansons des autres, c'est une expression que j'aime bien. Quelle difficulté représente ce travail de réappropriation pour toi? Alors t'as déjà un peu répondu avec Jim Morrison ou...
Non, moi ma difficulté c'est de pas me planter dans les paroles et de ne pas les oublier. Je vais essayer de pas les oublier, mais je prends le pari de pas prendre les paroles sous les yeux. C'est-à-dire que là, on va vous chanter des chansons, ce sont des reprises et j'ai pas les paroles. Donc si je me plante, je me plante. Mais ça va tenir.
Alors, toi qui es habitué à l'écrit, est-ce qu'écrire une chanson fait partie de tes projets?
Ah ben, j'ai toujours écrit des chansons et c'est ce que je disais à, je sais plus, c'était à Philippe Neymar ou à Arnaud qui est là aussi, c'est que la soirée Vénus, c'était la première fois que je faisais une reprise d'une part une chanson en anglais. J'avais jamais fait de reprise de ma vie. J'avais toujours, alors que j'ai écrit des tas de chansons en français. Et donc c'était la performance, elle était aussi là, c'était de faire une reprise. Moi, c'est vraiment un truc que je n'avais jamais fait. Quand je faisais de la musique adolescent, j'étais avec des musiciens pour qui la reprise c'était le baloche et il était hors de question de faire des reprises, donc on faisait de la création.
Et alors, qu'est-ce que la scène t'a appris ? On a parlé tout à l'heure de mise en danger, de mise en abîme quand on monte sur scène. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, la scène ?
Que
à la fois sur toi.
L'adrénaline, surtout. C'était super bon comme drogue.
Puis c'est simple.
24 heures après la soirée Vénus, j'étais encore hyper speed.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors initialement, la fête de la musique a été créée entre autres pour permettre à des musiciens amateurs de se produire publiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après toi, c'est toujours une des fonctions premières de cet événement ?
Non, j'ai une tendance à m'ennuyer pendant la fête de la musique parce que tout est un peu cadré. Maintenant, il faut prévenir que tu vas jouer, il faut réserver une place sur une scène. C'était pas ça l'esprit de la fête de la musique. La fête de la musique, tu te mettais dans, tu négociais avec un commerçant du coin, tu prenais une prise électrique et tu branchais ton matériel et tu jouais sur le trottoir. C'était ça la fête de la musique. Maintenant, il y a un côté un peu cadré qui me déçoit un peu. Et il y a un truc que je supporte pas dans la fête de la musique, c'est ceux qui sortent avec le disque. Enfin, c'est pas une journée pour passer des disques, hein. C'est pour faire de la musique.
Ça a perdu en spontanéité.
Oui, oui.
C'est Jacques Lang qui disait de la musique partout, des concerts nulle part. En fait, je crois que c'était le premier slogan, enfin un des premiers slogans justement, qui mettait bien en avant le fait que ce soit beaucoup moins cadré, quoi. Mmh.
Alors moi, si j'étais journaliste à la Dépêche, je voudrais être toi. J'ai mis Charles Giovacchini en deuxième, j'espère qu'il nous écoute pas, sinon je pense que je passerai sous sa plume et il se vengera. À quel artiste tu voudrais ressembler, si jamais...
À quel artiste je voudrais ressembler ? Il y en a plusieurs. Ça serait forcément un chanteur, je pense. Il y en a plusieurs. Ça serait un mélange entre... Évidemment, Simon Lebon de Duran. Duran, ça serait le chanteur de Fleshtones, quitte à vieillir. J'aimerais vieillir comme le chanteur des Fleshtones.
Qui a une énergie incroyable.
Hein. Ouais, qui est increvable. Et si j'étais jeune, j'aimerais être Marlon Manier, c'est le chanteur de La Femme. Voilà, enfin c'est... Mais le chanteur de Story Jim, c'est super bien aussi. Hein.
Alors, parmi tes particularités, il y a celle-ci qui m'intéresse beaucoup, c'est celle d'aimer autant la chanson populaire à succès. Tu m'avais parlé de Renaud, Mistral gagnant, que les artistes issus de la scène underground. Qu'est-ce qui, selon toi, relie la chanson populaire à succès aux productions qui viennent de la contre-culture ?
Tu vois, ça, c'est typiquement une question longue, incompréhensible.
Ouais. Alors, tu fais partie de ces
j'allais dire... Vas-y, tu me la refais, mais court et simple.
Alors, tu aimes autant la chanson populaire, on a parlé de Renaud.
Je suis pas un fan de groupe ou d'artiste. Pour moi, l'important, c'est la chanson. C'est ce que je t'expliquais avec Renaud. En fait, j'ai jamais aimé Renaud, mais je trouve que Mistral gagnant de Renaud, c'est une des plus belles chansons de la chanson française. En fait, l'important, c'est la chanson. Plus qu'au-delà de l'artiste. Tu peux avoir un artiste qui te fait une chanson, mais extraordinaire, et tout le reste de sa discographie peut te laisser complètement insensible. Et moi, il y a des tas de chansons qui me touchent.
Et alors, ce sera ma dernière question avant que tu endosses ton costume de Sorry Jim. Alors, un grand nombre de musiciens issus de la scène locale sont passés sous ta plume, hein, qu'ils soient amateurs ou professionnels d'ailleurs. Certains d'entre eux étaient présents quand tu t'es produit sur scène. Quelles ont été leurs réactions ou leurs commentaires ?
Je pense qu'ils ont été plutôt bienveillants parce que eux aussi sont sur scène et ils savent que c'est pas simple de monter sur scène. C'est assez facile de critiquer quand t'es dans le public, mais monter sur scène, ça te rend un peu humble. Enfin, j'imagine, après, tu peux péter les plombs en te prenant pour quelqu'un que tu n'es pas, mais ça te rend super humble, parce que tu sais que tout ça est fragile. Donc, non, j'ai eu très bon retour. Ça a été vraiment... D'ailleurs, je n'y serais pas retourné. Mais cela dit, tu t'en souviens, parce que toi, tu l'as fait aussi.
Oui, je l'ai fait, et puis j'étais là, et puis j'ai fait, effectivement, et j'ai, comme toi, j'ai eu pendant un jour ou deux, j'étais surexcité. Je veux bien rajouter que d'ailleurs, la scène, on m'avait demandé, qu'est-ce que t'as apporté la scène? Moi, comme je suis un très mauvais chanteur, j'ai, grâce à la scène, j'ai appris à n'avoir honte de rien, et je trouve que dans la vie, c'est important, quoi, de dire, j'y vais, et puis tant pis, quoi, on risque pas grand chose, sinon de passer un bon moment. On va passer au petit live, David. Donc, Yves Garraud est au clavier.
Je ne vois pas, il est à contre-jour.
Oui, il est là, il était caché derrière toi. Le temps de deux titres.
Deux titres. C'est une chanson qu'on a interprétée lors de la dernière soirée de Vénus. C'est une reprise de... Si. On a répété pourtant.
Tu dis que tu m'aimes, que tu m'attendras. Tu as de la peine, je pars loin de toi. Tu dis que l'absence rendra plus fort encore notre amour. Car on dit ces mots-là, oui, qu'on oublie un jour. Pourquoi me promettre ta fidélité? Pourquoi me permettre en vain d'espérer? Garde le silence, plus tard mon cœur sera bien moins lourd. Car on dit ces mots-là, oui, qu'on oublie un jour. Pourtant je voudrais comme toi garder l'espoir qu'à mon retour tout sera comme autrefois. Que je retrouverai ton amour, ha ha ha. Malgré tes promesses, j'ai peur loin de toi. De tant de jeunesse, de tant d'heures sans moi. Dans ton innocence, tu jures d'attendre mon retour. Car on dit ces mots-là, oui, qu'on oublie un jour. Je voudrais comme toi garder l'espoir qu'à mon retour tout sera comme autrefois, que je retrouverai ton amour. Ha, ha, ha.
Merci. Donc oui, c'était une reprise de Dick Rivers, enfin une adaptation d'une chanson des Beatles par Dick Rivers. C'est les mots que l'on dit. Next. Si vous connaissez les paroles, vous pouvez m'aider. Hein. Vous allez reconnaître peut-être.
Dance, pull on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway to the crown, to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Let's dance, for fear your grace should fall. Let's dance, for fear your grace should fall. Let's sway, let's sway. You could look into my eyes. Let's sway, under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower.
Alors, on l'a fait, c'est pas grave. Non, honnêtement, c'est ça. Depuis tout à l'heure, j'ai un truc, j'ai un rot coincé. Je chantais avec un rot dans la bouche.
On
c'est pas super ça.
Super.
On va tout savoir. Mais... Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. And when the music starts, I never want to stop. It's gonna drive me crazy. Music makes the people come together. Mais là, y a plus... Music. Là, voilà, c'est la fête de la musique. If you say run, I run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower.
Bravo.
Merci.
Yves Garraud et David Chapelle au chant, et Yves Garraud qu'on va retrouver tout à l'heure qui était au clavier. Le voilà, l'esprit de la fête de la musique, on s'installe, on joue. Et puis tant pis s'il y a des petits couacs.
On va poursuivre. Alors on poursuit. Pas de son. Ok. Donc, on poursuit avec un deuxième groupe, une deuxième formation invitée dans le cadre de cette fête de la musique, Laurent, avec le groupe Bardo. Excusez-moi.
C'est des nouveaux venus.
C'est des nouveaux venus sur la scène rock hébroïcienne. Alors, le groupe Bardo, BRDO, hein, si vous mettez BRDOT, vous allez mettre du temps à tomber sur leur page. Il s'est formé autour de Philippe Neymar, ex-Black Maria et Arnaud Fournet, le luthier dans la vraie vie, pour ensuite compter dans ses rangs Vadim Neymar, fils de Philippe, et Yves Garraud, qui est par ailleurs président du festival Rock in the Barn. Et ma première question sera posée à Arnaud, que je laisse le temps de s'installer, parce que c'est compliqué de gérer à la fois du live... Et puis des questions-réponses. Mais et là je ouais Arnaud. Là, bah, mon cher Arnaud, la première question est pour toi.
Le rouge.
Tu veux prendre le micro rouge.
Bonjour.
Alors tu es avec Philippe Neymar, un des deux protagonistes à l'origine du projet Bardo. Philippe a eu de nombreux groupes, dont Black Maria dans les années 90. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter, de faire ce projet Bardo tous les deux au départ?
L'âge et l'urgence.
Mais le rock est une esthétique et de l'urgence.
Oui, il y avait quand même des points communs. Mais l'envie en fait pour Philippe, il était reparti plutôt dans le jazz manouche et tout. Il avait quand même l'envie de refaire un petit peu de bruit avec ses guitares. Et puis moi depuis le temps j'avais l'envie de remonter quelque chose. On s'est rencontrés et de fil en aiguille. Bon, au niveau univers musical, on était pas loin l'un de l'autre. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est quand même 10 ans de moins que Philippe, je venais le voir en concert. Et voilà, je venais voir Black Maria en concert déjà à l'époque. Et voilà, ça m'a fait tout drôle. Et de fil en aiguille, on a trouvé Yves et Garraud. Et puis Vadim qui est arrivé, qui nous a rejoint. Et puis on était au complet.
Et alors, une des particularités de ce groupe, c'est effectivement, on parlait de Philippe Neymar tout à l'heure. Philippe qui est excusé aujourd'hui, il était indisponible. Donc vous n'êtes que trois des quatre membres aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal, à venir dans l'émission Biblio Plus Plus. Quand même un gros parcours professionnel avec le groupe Black Maria qui a fait les belles heures du rock français dans les années 90. Il y a toujours cette envie de chez Philippe de jouer. La passion est restée intacte. Une des vertus de l'amateurisme, le vôtre est éclairé, c'est de garder la passion intacte. Est-ce que ce statut d'amateur offre d'autres avantages? Plus de liberté.
Plus de liberté, des prises de risques certainement facilitées. Il y a moins d'engagement. Donc, oui, voilà, il y a d'autres inconvénients.
Le temps, notamment.
Voilà.
As-tu des projets de groupe avant celui-ci?
Moi, j'en ai eu plusieurs. Et puis, le boulot a fait que ça s'était vachement calmé, quand même. J'avais pas beaucoup de temps et l'occasion a fait le larron. Donc, ça y est, c'est reparti.
Et je poursuis avec Vadim, donc à la tête, hein, donc qui écrit, qui compose, qui joue de la basse, qui est multi-instrumentiste et qui est en première ligne au chant. Il y a eu de nombreuses expériences de groupe aussi pour toi, Vadim.
Oui, j'ai eu quelques groupes avant, du hip-hop au folk au rock. Voilà, j'ai eu 4-5 expériences avant de faire Bardo.
Yves, qui est caché derrière le clavier, qui n'a pas quitté
le micro.
Début de cette émission, et derrière le micro déjà.
Ouais, des petites expériences. Alors, la dernière, c'était au lycée. Non, je déconne. Mais c'était avec différents groupes, à la batterie, au clavier, enfin un peu à la guitare aussi. Donc, j'ai essayé de jouer un petit peu ma carte de... J'essaie de ressasser de Rémi Bricat sans ses pigeons.
Voilà. Alors, pour, et là, je posais la question à Vadim. Pour ceux qui, comme moi, te connaissent bien, on est nombreux ici à te connaître sur ce plateau. T'es un garçon timide qui, avant Bardot, œuvrait plutôt en arrière-plan dans les projets musicaux. Te voilà en première ligne au chant et à la basse. Tu as mis tes talents de mélodiste et de compositeur au service du groupe. Est-ce qu'il a fallu que tu te fasses violence pour occuper cette place avec Bardot, cette place de chanteur, comme ça, en première ligne?
Un petit peu, parce que se mettre au chant, c'est voilà, quand on voit un concert, disons que le chanteur, il doit faire souvent preuve d'assurance et de il doit gérer vraiment tout l'aspect scénique, être il est au premier plan, quoi. Donc ça a été un petit défi, et à la fois c'est presque plus facile avec Bardot, parce que bon, c'est un groupe de copains et familial aussi. Donc je partage la scène avec mon père, donc il y avait un petit côté je le fais avec Néné dans son dernier challenge, donc voilà, à partir de là c'était facile de se mettre un peu plus en avant.
Et là, c'est une question que je pourrais poser à tous les trois. Alors, parmi les groupes qui ont nourri les influences de Bardot, on peut citer, ça c'est pour les anciens, Keith Faraon, les Roadrunners, groupe né à Évreux mais composé de Havre, New Order, Marquis de Sade, L'Œil Cole. Est-ce que le choix de faire un rock qui va puiser dans les années 90 s'est fait dans le consentement mutuel, ou est-ce que un ou deux d'entre vous ont imposé cette ligne artistique de Bardot qui est celle des années 90, ancrée un peu dans le blues et le folk?
En fait, il y a une... Oui, en fait, il y a un relatif consensus sur l'ambiance, l'instrumentalisation des morceaux, les arrangements. Je pense qu'on a des influences qui sont quand même qui se rejoignent. Donc non, enfin bon, personnellement, ça m'a posé aucun problème, moi.
Je vois que Yves ne dit rien non plus.
Ouais, non, mais je regardais parce que Arnaud effectivement a tout un processus, enfin d'instruments aussi, d'ambiance et autres, qui permet de donner une certaine griffe, un certain cachet au groupe. Donc il est important.
Et alors, vous avez sorti un premier EP, 7 titres. Hein. Alors, EP, c'est un mini-album qui s'appelle Better Place, qu'on peut trouver à la médiathèque d'ailleurs. D'abord en version numérique sur Bandcamp, et puis plus récemment sur disque compact. Je sais que ça va vite avec vous, parce que vous avez déjà tous de la bouteille et vous êtes d'accord sur le projet à tenir. Combien de titres vous avez écrit et composé à ce jour avec Bardot?
À ce jour, je pense qu'on a une vingtaine de titres composés. Voilà, on essaie de se consacrer davantage aux scènes, donc ça réduit le choix des titres. Donc sur scène, on en fait 10-12. Et puis voilà, avec Néné, il compose assez vite, donc ouais, ça va vite, on va dire.
Et alors, avec quelle personne on va parler un petit peu de l'enregistrement du disque, même si aujourd'hui c'est une spéciale fête de la musique, ça me paraissait quand même important. Avec quelle personne extérieure au groupe avez-vous travaillé pour ce disque Better Place?
Voilà, comme tu dis, il y a pas mal de personnes extérieures. C'est un écosystème, un groupe, hein. Donc, on a sollicité David Fontaine pour l'enregistrement de cette EP. Au clip, on a eu la chance d'avoir David Chappelle de Sorry Jim qui nous a réalisé le clip.
J'ai eu la chance de l'avoir en interview.
Ouais, voilà, juste avant. Et puis, on a eu au mastering Léo Vauquelin et à la photo Frédéric Grimaud.
Alors, tu es le plus jeune de la bande, hein, ce qui fait, alors on parlait d'un groupe intergénérationnel, mais vous n'avez pas non plus 50 ans d'écart entre chaque membre. T'es le plus jeune de la bande, ce qui fait de Bardot un projet intergénérationnel. Ça offre quelle particularité, ça, au groupe, d'être de différentes générations au sein du même groupe? Lequel de vous trois souhaiterait répondre à cette question?
Non, mais je crois qu'on l'avait déjà expliqué, c'est une certaine complémentarité. En fait, on est d'univers musicaux un peu différents. Et on essaie de rallier, on a un point de ralliement, alors qui est un peu le rock, mais ça peut être aussi pop, folk, enfin autre, ou toutes tendances confondues. Hein, je pense que on se retrouve là-dessus, quoi.
Et toi, Yves, t'es par ailleurs, donc je disais, président du festival Rock in the Barn, donc ça se déroulera, qui se déroulera.
Je suis l'homme sandwich, hein, 6 et 7 septembre prochain, j'en connais nombreux.
15e édition. Du coup, quel regard? J'imagine que t'as un regard très averti sur la pratique
en fait,
amateur
moi,
et professionnelle.
Je suis en pleine admiration à chaque
territoire.
Fois, dans tout groupe confondu, hein, c'est vrai que moi je suis plus observateur qu'acteur, en étant sur scène ou quoi que ce soit, donc je suis un arpenteur de concert averti, certes, mais j'aime bien avoir un peu de recul et puis découvrir surtout. Pas rester sur mes acquis.
Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous trois, la fête de la musique ?
Alors, nous, on l'a connue au début, donc on a vu l'évolution dans le temps. Je te laisse continuer, Arnaud. Mais c'est vrai qu'en fait, non, c'est un échange permanent, puis c'est vrai que ça donne le loisir à des gens dont c'est pas forcément la profession de s'exprimer, en fait.
Est-ce qu'on... Ouais. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ?
Nous, la fête de la musique, c'est à chaque répète.
Donc, donc c'est, le plaisir, c'est quand même le mot d'ordre de ce groupe.
Ouais.
Est-ce que vous avez des dates à venir de production sur scène ? Est-ce que votre projet, c'est plutôt de trouver des dates ou d'enregistrer ? Tu disais que vous composiez très vite, déjà 20 morceaux en boîte pour un groupe qui s'est monté il y a quelques mois. Ce sera plutôt la sortie d'un deuxième EP ou plutôt de trouver des dates, les projets ?
Ouais, non, à la rentrée, là, on réfléchit à faire une date justement pour célébrer ce petit EP avec justement nos amis de Bukaru Banzai qui sont parce aussi présents. Comme quoi, voilà, ici sont les gens avec qui on traîne beaucoup. Et voilà, puis d'autres dates, tomberont au fil de l'eau là pour la rentrée 2024-2025.
Eh ben, je vous remercie tous les trois, vous écoutez en live.
Merci
maintenant.
À
donc Yves Garraud au clavier, Arnaud j'allais dire à la guitare, mais non, du coup, il nous a fait une petite surprise, et Vadim Neymar chant guitare, les bardos, dans l'émission Biblio Plus Plus.
Hey. 1, 2, 8. Hey, 1, 2. Prochain morceau s'appelle Better Place. 1, 2, 3, 4.
désolé pour le son un peu. prochain morceau s'appelle Keep the War. Keep Silence. C'est bon, je m'en fiche. Merci.
Merci les Bardos d'être venus dans ce live spécial Fête de la musique dans Biblio++. On va poursuivre avec les Bukaro Banzai avec un titre qu'on va diffuser pour leur donner le temps de s'installer pour voilà, cette dernière partie d'émission avec le titre Sea of Dead. Les Bukaru Banzai à l'instant avec le titre Sea of Dead, et ça tombe bien, on les reçoit pour terminer cette émission spéciale fête de la musique dans Biblio Plus Plus. Et donc on reçoit donc les trois membres de ce groupe hébroïcien avec Laurie.
C'est moi-même.
À la basse, Ludovic également à la basse. Et puis donc à la batterie, Alex. Merci messieurs de venir donc pour cette fête de la musique dans l'émission. Donc on va vous présenter rapidement. Donc votre groupe existe depuis 2017. Vous avez réalisé déjà 3 maxis à votre actif. Le premier était sorti en 2019. Le titre de ce maxi, c'est un titre, c'était Ruth. Le deuxième en 2022, Eight Dimension, et puis le dernier qui est sorti cette année, en début d'année, The Rise of Alan Quatermain. Alors
tu le dis
trop
bien.
T'as vu, il y a un effort sur l'accent.
Ouais,
j'ai travaillé
parce
un peu.
Moi, quand je le fais, ça fait pas du tout ça.
Non, mais le côté Frenchy aussi, ça marche pas mal, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Donc vous êtes un groupe dans un esprit noisy rock, avec un format vraiment particulier. Il y a deux basses, une batterie, c'est très instrumental au départ. Votre projet. Donc depuis, vous êtes produit aussi bien dans des bars que dans des concerts, dans des salles de concerts. Si on remonte le fil de votre histoire, de la genèse du groupe, comment vous avez eu cette envie de partir sur ce format comme ça, instrumental, sans chant, sans guitare?
Eh ben parce que on n'avait pas de chanteur.
Tout simplement.
Ouais, c'est pas mal comme concept de démarrage. Donc non,
c'est pas un choix artistique.
si. En fait, c'est parti. On s'est croisé avec Alex et on avait eu des groupes et on jouait plus. Et là, on s'est dit on se fait une petite répète tous les deux, on improvise, on voit ce qui en vient, et on était juste un batteur et un bassiste et on dit on essaye comme ça. Et donc on a essayé comme ça pendant un bon moment, en essayant plein de compos, plein de morceaux, mais quand même batterie, une basse, pas de chant, au bout d'un moment c'est un petit peu compliqué. Donc on a quand même fait ça longtemps, au moins un an.
Je crois un an, vous avez fait comme ça.
Et puis on s'est dit à trois on va peut-être mieux y arriver, donc on a réfléchi clavier, machin et tout. Puis après on s'est dit que c'était quand même bien, on aimait bien ce format atypique d'avoir basse, batterie. Et donc il y a Ludo qui est arrivé, qui est guitariste, bassiste, et on savait pas trop comment il allait arriver, et il est arrivé avec une basse. Et là on s'est dit, deux basses, une batterie, on reste dans cet esprit un peu atypique qui nous plaisait bien. Mais ça nous a dégagé un peu de place quand même, parce que du coup il y a une basse qui peut être un peu plus mélodique, même si ça reste une basse. Et la deuxième basse plus lourde, donc ça nous a élargi, ça nous a un peu débloqué. Et c'est parti de là. Donc tu es arrivé en quelle année, jeune homme?
2018.
2018, donc ça fait... ça fait déjà un
2024.
Moment, quoi,
en fait. Ça fait un bon moment,
ça fait trois
ouais, je suis le mathématicien du groupe.
C'est toi qui calcules.
Je fais les soustractions.
En tout cas, il y a une régularité dans les calculs, puisque vous avez sorti donc 3 maxi, et puis le côté instrumental qui demeure, ça reste l'ADN quand même de... Et la personnalité, la musicalité de votre projet.
Justement, l'exemple.
Mais justement, j'allais y venir.
D'où le titre diffusé.
T'avais préparé ta transition et je te l'ai cassé.
Mais non, pas du tout.
Pas du tout.
D'accord. Au contraire, bien au contraire. Okay. Tu voulais rebondir sur le côté chanté du titre qu'on vient de diffuser.
Exactement.
Donc je compte sur toi pour me parler justement du chanteur-guitariste qui a intégré depuis le deuxième maxi en fait votre discographie.
Oui, en fait c'est Titouan. Donc pareil pour comme pour Sorry Jim, c'est venu de la soirée des Vénus.
Ils sont forts ces Vénus.
Avec leur
soirée. Oui, on l'entend beaucoup.
Ils nous obligent à tenter des choses. Donc nous on a comme c'est une soirée où il y a des reprises en instrumental, c'est parfois un peu compliqué. Donc on avait demandé à Titouan de nous rejoindre sur un de ses projets et on s'était bien amusé. Ça avait bien plu. Donc on lui a proposé d'intégrer le groupe. Donc il est resté, on a retravaillé les compos qu'on avait déjà en intégrant du chant et de la guitare. Et puis on a composé ensemble, donc ça a duré
un an et demi, ouais, facile.
Et du coup, dans ce cadre-là, on a fait un premier enregistrement où c'était des compos qu'on avait avant et lui est venu s'intégrer dessus. Et un an après, on a refait un enregistrement où c'était des morceaux qui étaient plus composés ensemble. Et ça a donné le disque qu'on devait sortir il y a déjà quelques mois, sauf que ce jeune homme a eu dans sa vie la possibilité de quitter la région, donc de quitter le projet, donc voilà. le 10, ça représente cette parenthèse du groupe à 4 qui nous a bien plu. Et là, on repart à 3 et ça nous plaît bien aussi.
Voilà, vous continuez le projet à 3. Ouais. Mais en même temps, le projet évolue. Donc, il y a aussi une évolution musicale. Parce qu'au début, c'était quand même autour du son noisy. On voit qu'avec l'évolution et l'apparition des maxi, vous dirigez, vous conservez le son, mais ça évolue aussi vers un son un petit peu post-punk, un petit peu même post-rock par moment. Quand vous allez faire de la scène avec les nouveaux morceaux, les nouveaux titres, donc ça va être plus compliqué de mettre peut-être en avant ce côté chanté. Vous allez peut-être finalement garder la configuration instrumentale ou éventuellement vous réfléchissez à la venue d'un chanteur dans votre formation, dans votre groupe.
Bah, en fait, quand il est parti, c'est pour ça que l'enregistrement a déjà un an, c'est qu'on savait pas.
Ouais.
On savait pas comment faire parce que ah oui, il reste 2 minutes, c'est ça, faut se dépêcher. Ah non. Tu fais.
Toi, t'as fait de la radio.
J'aime bien vous embêter.
T'aurais pas fait un peu de radio par hasard?
Voilà, d'accord, je vais essayer de raconter ça rapidement. Eh bien, nous avons donc eu la possibilité de chercher quelqu'un d'autre. Et puis, on a tourné, on s'est demandé si on mettait des machines, si on mettait. Et puis, à force de tourner, on n'avançait pas et on a dit qu'on cherchait plus et on repartait tous les trois parce qu'on était comme ça avant, ça nous plaisait bien. Donc on repart comme ça, il y a des titres qu'on a pu adapter sans le chant et qui fonctionnent, et il y a des titres non, donc on les fait plus sur scène, voilà. Et puis là
mais
on repart...
Mais ils sont sur disque,
ils sont sur disque.
On peut en profiter sur disque.
Et là on repart sur une session de compo à 3, et
d'accord.
C'est cool quoi.
Je vais terminer donc notre échange avec cette culture qui vient donner aussi une certaine image à votre formation. C'est la culture cinéma des années 80 qui va rapporter un côté léger aussi à votre musique. Le titre du groupe, le titre des maxi.
Le second degré.
Ouais. C'est le second degré.
Oui, c'est ça.
On n'a pas
envie de se prendre trop au sérieux
c'est
non
ça,
plus.
Ça.
Et c'est des références que nous autres, presque quinquas, avons bien en tête et qu'on aime bien convoquer effectivement quand on compose. Donc ça ajoute un côté un peu décalé à la vibe de notre son. Et puis c'est assez pratique parce que ce sont des choses qui sont un peu oubliées, mais quand on en parle, tout de suite ça rappelle des choses et les gens connectent, donc c'est bien.
Et souvent des sourires d'ailleurs, en disant « Ah mais oui, je me souviens de ce film, c'était mortel !» Eh ben voilà,
d'ailleurs,
tu vas le
déjà,
revoir, ressort ta VHS.
Je pensais déjà à la suite.
On a déjà prévu la suite, ouais. On a déjà un visuel pour le prochain EP, et vous ne saurez rien.
Non, c'est la surprise.
Ah non, c'est trop tôt.
C'est une personnalité quand même pour le groupe, enfin ça rajoute un trait de personnalité qui est assez attachant finalement.
Bah, on a essayé aussi de le faire dans les clips aussi, on a fait des petits clips qu'on retrouve sur YouTube si vous avez l'occasion.
Il y a Parpaing, le titre qui a été un petit peu dans un esprit cinématique avec le côté
Lego.
On appelle ça le stop motion,
stop motion ouais.
On a fait en stop motion, on a fait un peu un style un peu dessin animé, on a fait plein de concepts différents et c'est vrai que c'était aussi pour avoir une imagerie un peu plus légère que le son qui est parfois un peu lourd et brut et on voulait rester un truc un peu rigolo quand même quoi.
Eh bien, écoutez, on va vous remercier. On vous retrouve prochainement
aussi.
En live ou en concert. Vous avez des dates
Avec Bardot, il paraît.
Avec Bardot. Mmh. Et en attendant, sur votre Bandcamp ou encore dans les disques de la médiathèque, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver donc les Bukaro Banzai pour les découvrir et les apprécier. On vous remercie, on vous souhaite.
Merci à vous.
Merci pour votre accueil.
À toutes et à tous qui nous écoutons, une bonne fête de la musique. Au nom de l'équipe de Principe Actif qui co-réalise cette émission et de Nadège et de Laurent qui ont déjà quitté le studio, je souhaite. Ils sont là, ils sont encore là, ils m'ont fait cette surprise. On vous souhaite une bonne fête de la musique, de bonnes vacances et on vous retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Biblio. À bientôt.